Bon, alors, la mesure qui a été annoncée, je parle pour Montréal-Laval, là, parce qu'à Québec, on prolonge, qui était déjà implanté, c'est le couvre-feu qui revient à 20 heures à partir de dimanche.
C'est ça. Le PM voulait envoyer un signal fort à Montréal puis à Laval, puis il a choisi le couvre-feu. Parce que si on voulait résumer le point de presse d'hier, il a fait le choix de devancer le couvre-feu plutôt que de fermer les écoles, Paul. Il l'a dit de différentes manières pendant le point de presse, mais le message qui revenait, c'était « Oui, je remets le couvre-feu à 20 heures à Montréal puis à Laval, mais je ferme pas les écoles. » Pour combien de temps, ça, on verra, hein, parce qu'à un moment donné, il s'est fait poser la question « Est-ce que c'est inévitable que les écoles finissent par fermer à Montréal? » Et là, il a dit « Ben écoutez, les projections de l'INSPQ sont pas claires. C'est pas impossible qu'on réussisse à garder les écoles ouvertes jusqu'en juin, mais son non-verbal, la petite hésitation qu'il y a eu quand la question lui a été posée, disait clairement que ça allait être difficile de garder les écoles ouvertes encore longtemps. Mais pour le moment, elle le reste. Et honnêtement, Paul, quand on fera le bilan de cette crise, puis Dieu sait qu'il y en aura des bilans, on pourra reprocher à Legault toutes sortes de choses, certaines décisions, certaines indécisions, du yo-yo, tout ça, mais on pourra pas lui reprocher son manque de cohérence par rapport aux écoles. Tu sais, le cliché qui veut que gouverner, c'est choisir, là, ben, Legault, tout au long de cette pandémie, a choisi l'école. Quand il est revenu en politique, il a dit « Moi, je vais être le premier ministre de l'Éducation ». Je pense qu'on peut dire qu'il a été aligné sur ses convictions personnelles par rapport aux écoles, par rapport aux élèves, par rapport à la réussite scolaire. Ce qui est assez clair aussi, c'est que dans les décisions qu'il a annoncées hier, là, c'était ses décisions.
Une petite question à te poser.
Hein? C'est moi le boss!
Ouais, mais quand tu sens le besoin de dire que c'est toi qui décides un an plus tard, moi, je vais te poser une question, peut-être, tu peux pas me répondre. J'ai pas senti que c'était l'harmonie totale entre le premier ministre et le directeur de la santé publique.
J'ai senti que c'est... D'abord, Monsieur Horacio était très discret hier. Hein?
Non, mais c'est parce que, souviens-toi, l'autre point de presse, il avait dit... Il m'a dit ça, je l'ai fait. Il m'a dit le contraire une semaine après, je l'ai fait. Il pointait. Hier, il nous a dit, non, c'est pas ça que je voulais faire. Écoute bien, là, il a pris Horacio puis il l'a lancé en bas devant l'autobus, là.
C'est ça.
Et hier, j'ai senti qu'il y avait un petit fret. Peut-être que je me trompe.
Mais... Ben là, c'est parce que... Écoute, ils travaillent beaucoup ensemble, hein?
Oui.
Ils passent des heures et des heures. Alors.
Pas sûr que le docteur Arruda, il a apprécié de se faire planter de même en point de presse.
Ben, c'est sûr qu'il n'a pas apprécié, Paul. C'est sûr qu'il n'a pas apprécié. Puis t'as bien raison de dire que mardi, il a pelleté ça dans le cours à Arruda, là. Essentiellement, là, il a dit, gardez, là, moi, là, les écoles, là, revenir en intermittence, là. C'est pas ma décision, là.
C'est lui.
C'est lui.
Une chance qu'il y ait un plexiglas, hein?
Alors, hier, il s'est repris. Oui. Pas juste pour le postillonnage.
Non.
Non, c'est ça. Alors, hier, il s'est repris en disant, écoutez, là, moi, je reçois des recommandations de la santé publique.
Mais je décide.
Mais c'est moi qui décide. Puis dans la vie, je m'assume. Puis si quelqu'un est pas content, il y a une personne à blâmer, c'est moi.
Juste une question, par exemple.
Oui.
Le couvre-feu, ça commence dimanche à 20h.
Mm-hmm.
Pour Montréal et Laval.
Mm-hmm.
Ça veut dire qu'Alain Crête, il peut se promener, lui, à 20h30 à Varennes. Toi, Bernard, qui est à Montréal, moi, je suis à Montréal. Là. On est enfermé à partir de 20h, on n'a pas le droit de sortir.
C'est à vous autres de voter pour la CAQ.
Bon.
Non, mais
c'est parce que...
Je fais des blagues.
Non, je comprends, mais les auditeurs là, m'écrivent en disant, wow, nous autres, on est... Ça... Tu comprends, on est-tu dans la communauté métropolitaine de Montréal?
Oui, mais ça...
Non, mais...
On l'entend depuis le début.
Oui, mais là, on a vérifié ce matin pour être bien certain, puis ils nous ont dit non, c'est le territoire de santé publique, là. Montérégie, c'est 21h30.
C'est ça.
Puis Montréal, Laval, là, c'est 20h.
Exact. Bon. C'est ça.
Non, mais il faut juste le préciser parce qu'il y a des gens qui se le demandent.
Tu fais bien. Parlant de précision, j'ai bien apprécié celle du ministre Dubé hier soir sur son Twitter, qui a dit, écoutez, là, les personnes nées en 66 peuvent être vaccinées.
C'est pas la date d'anniversaire, c'est l'année de naissance.
C'est ça. Ouais. Tu peux avoir 54 ans.
Mais ta fête dans 3 semaines. Là.
Exact. Mmh. Mais si t'es né en 66, t'as droit au vaccin. C'est parce qu'hier, Paul, il y a eu
beaucoup de confusion.
Ah, puis il y a eu beaucoup de gens qui se sont vus refuser le vaccin à cause de
ça. Juste te dire que le prince Philippe est décédé. On vient d'avoir la confirmation. Oh. Alors, l'époux de la reine Élisabeth décédé à l'âge de 99 ans.
Bon,
voilà, confirmé.
On leur transmet nos condoléances. Très bien. Alors, voici. Donc, Christian Dubé qui a précisé. J'espère que l'ajustement va être fait, Paul, parce que, honnêtement, pendant toute la journée hier, nous autres, on appelait le cabinet de Christian Dubé, parce que pendant l'émission, il y a des gens qui m'écrivaient puis qui me disaient, voyons, je viens de me faire revirer de bord. Tu viens de me dire que chez Dubé, ils disent que c'est 66. Je suis né en 66. Ils n'ont pas voulu me le donner. Puis à plusieurs reprises, on a rappelé puis on a demandé au cabinet de Dubé, êtes-vous bien sûr? La directive, est-ce qu'elle est descendue dans les cliniques de vaccination? Oui, on l'a dit. Mais là, redites-le. En tout cas, on espère qu'aujourd'hui, ça va être clair. L'autre chose qui était bien, que j'ai bien apprécié de Christian Dubé hier, c'est sa mise au point sur la campagne de vaccination dans les entreprises. Écoute, il a dévoilé hier les 13 premiers pôles de vaccination, Paul. Les 13 pôles.
C'est vendredi, pas grave.
Exactement. Alors, 13 pôles de vaccination, donc des entreprises qui vont vacciner leurs employés, qui vont vacciner aussi la communauté autour. Écoute, c'est tout le Québec Inc., Paul, qui est en train d'embarquer dans la campagne de vaccination. Tu regardes les premiers pôles là, dévoilés hier. La Banque nationale qui se met avec Bell, avec Couche-Tard, avec le Canadien de Montréal, avec Métro. Eux autres, ils font un pôle. Bombardier, produits récréatifs à Valcourt, ils vont vacciner. CAE, vont vacciner. Papier Cascade, Kings and Falls, ils vont vacciner. Sur la Côte-Nord, ArcelorMittal, l'aluminerie Alouette, ils se mettent ensemble, ils vaccinent. Rio Tinto, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Pratt & Whitney à Longueuil, Papier Forestier Résolu à Lac-Saint-Jean, Aéroport de Montréal, Bombardier, Air Canada, qui se mettent ensemble pour vacciner. Paul, tu sais...
Mais ça, on parle du mois de mai.
Mai. Mais tu sais, c'est positif. Il faut les donner les bonnes nouvelles là-dedans. Puis là, tu vois, c'est le Québec Inc. qui embarque. Puis il y a plusieurs de ces entreprises-là qui sont syndiquées. On pense bien hein, que les syndicats embarquent aussi, vont être des partenaires dans cet effort-là. Donc, bravo. Puis écoute, il parle de plusieurs centaines d'entreprises qui ont levé la main. 500 000 personnes qui pourraient éventuellement être vaccinées dans ces pôles de vaccination des entreprises québécoises. Bravo.
La ministre Marie-Ève Proulx qui n'aura pas à se présenter devant le tribunal aujourd'hui. Pour quelle raison elle devait y aller?
Elle devait y aller parce qu'elle faisait l'objet de plaintes. D'une plainte pour harcèlement psychologique et une autre plainte pour congédiement illégal ou interdit. Alors, il y a eu une entente hors cours entre elle et le plaignant, qui est un ancien membre de son cabinet politique. Elle s'en tire à très bon compte, Paul. Elle s'en tire à bon compte parce qu'elle aurait dû témoigner aujourd'hui s'il n'y avait pas eu d'entente hors cours. Et elle aurait dû s'expliquer pas juste sur les plaintes, mais sur la façon avec laquelle elle traite ses employés de façon générale. Au dernier des comptes, Paul, là, c'est 17 employés.
17?
Oui, en un peu plus de 2 ans, qui ont quitté son bureau. Certains ont démissionné. Certains sont partis en maladie. D'autres ont été congédiés. Tu as plusieurs témoignages depuis plus d'un an qui ont été rapportés, qui font état d'un climat toxique dans son entourage, à son bureau. On parle d'une ministre qui a de la difficulté à gérer ses relations humaines. Une ministre qui a tenu à répétition des propos blessants, dégradants, irrespectueux. Moi, j'ai parlé à plusieurs personnes, Paul. Mmh. Elle est capable d'être méchante, humiliée, humiliée, tombée dans les attaques personnelles. Elle a perdu des plumes lors du dernier remaniement. Le premier ministre Legault lui a enlevé le dossier des PME pour le donner à la nouvelle ministre Lucie Lecour. Elle a perdu également, Mme Marie-Ève Proulx, la responsabilité de ministre régional pour Gaspésie-les-Îles. Mais elle garde développement économique régional, elle garde Chaudière-Appalaches.
17 personnes en 2 ans, c'est du monde, là.
Oui, mais c'est ça. Et moi, je me pose la question... D'abord, tu peux pas exclure qu'il y a d'autres plaintes portées contre elle. Puis deuxièmement, je me pose la question...
Quelle sorte de règlement en cours qu'ils ont fait, là?
Ben ça, on ne le saura jamais.
Non, je sais.
Mais pourquoi est encore là, Paul? T'sais, je veux dire, je comprends qu'elle fait partie des premiers disciples de François Legault, du temps de Force Jeunesse, du temps de la fondation de la CAQ. Me dire une affaire, j'ai de la misère à m'expliquer comment ça se fait qu'elle est encore ministre. Puis moi, je sais, Paul, que la chef de cabinet adjointe de François Legault, Claude Laflamme, a été mise au courant des comportements de Mme Proulx moins d'un an après sa nomination comme ministre, dans la première moitié de 2019. Deuxième moitié de 2019. Mmh. Claude Laflamme a été mise au courant de ce qui se passait au cabinet, puis des comportements, puis des gestes posés par Mme Proulx. Fait que comment ça se fait qu'elle est encore là? Je ne sais pas trop. Il y a des femmes très compétentes au caucus qui pourraient très bien assumer ses fonctions. C'est un mystère pour moi, Paul. Comment ça se fait qu'elle est encore là, Marie-Ève Proulx? En tout cas, elle s'en tire à bon compte. Qu'est-ce que tu veux? Ça passe en dessous de la couverte, mais comme tu vois, je voulais m'assurer qu'on le sache quand même là, qu'il y avait eu cette entente-là et que pour le moment, ben, elle n'aura pas besoin de se justifier. Mais je te le dis, parmi les 17, est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient porter plainte? Tu sais, je veux dire, c'est un peu une bombe à retardement, je trouve, Mme Proulx, moi. Bon.
On va souhaiter un bon week-end au premier ministre et au Dr Arruda.
Oui.
Hier, là.
Non, c'était...
Le body language, comme on dit en chinois, là, c'était quelque chose.
Un petit froid. Hein? Un petit froid. Oui, c'est ça. C'est ça. On va espérer qu'ils se réconcilient pendant la fin de semaine. Ils n'ont pas le choix de travailler ensemble.
Il n'était pas trop jasant non plus hier, le Dr.
Arruda. C'est ça, je te dis tout à l'heure.
Contrairement à ses habitudes. Là.
Oui, exactement.
Un peu plus silencieux.
OK, salut.
Je vous rappelle que le prince Philippe, le conjoint, donc l'époux de la reine Élisabeth, est décédé, 99 ans. On aura d'autres précisions tantôt, puis on va aller voir ce qui se passe sur Ville-Marie.